Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Tous les samedis, entre 12h et 13h, après Vibra SOS, un peu de musique portugaise, eh bien, on a un peu de science et un peu de technologie. C'est ce que vous propose Graphite tous les samedis, entre 12h et 13h, et tous les mardis matin pour la rediffusion à 10h. Sur le graphite.net, le site internet qui vous permet de suivre toutes les émissions de Graphite, et sur la bande FM 94.9. Je m'appelle Jean-Noël, je suis heureux de vous retrouver pour ce samedi. On a encore pas mal d'actualités scientifiques qu'on va évoquer dans cette émission. On va parler un peu de tout, hein, de toute façon, et c'est tout l'intérêt, comme ça on passe d'un sujet à l'autre, des sujets parfois un peu lourds, un peu plombants, et puis un petit peu plus, on va dire, un peu plus léger et un peu plus rigolo aussi. C'est ça la science également, hein. C'est notre quotidien, c'est notre vie. Nous sommes le 4 février, c'est la journée mondiale contre le cancer qui est organisée par l'Union internationale contre le cancer. Et au niveau de l'éphéméride, ça nous permet un petit peu d'avoir des repères historiques sur des choses qui nous concernent. Par exemple, en 1912, le 4 février, il y a François Reichelt. Il saute du premier étage de la Tour Eiffel avec un parachute de son invention. Donc il a voulu tester ça. Et bon, bah, il s'est écrasé au sol, c'est un peu dommage, mais c'est la première fois qu'il y a ce genre d'expérience qui est menée sur la Tour Eiffel, c'était en 1912. L'année d'après, en 1913, il y a des kiosques équipés de téléphones qui sont installés dans les rues de Paris. Les cabines téléphoniques datent de 1913. Alors, vous voyez, c'est quelque chose d'un point de vue historique, je n'imaginais pas que ces premières cabines étaient installées dans les rues de Paris en 1913. Je pensais que c'était plus récent. En 1957, toujours le 4 février, c'est la mise en vente de la première machine à écrire électrique. 1957. Vous voyez, comme quoi, là aussi, je pensais que c'était un petit peu plus récent. 1969, c'est l'inauguration par l'armée américaine du réseau ARPANET. En fait, ça deviendra plus tard Internet, en se démocratisant et en s'internationalisant vers la fin des années 90. Mais ça a démarré le 4 février 1969. Plus proche de nous, en 2002, le patron du groupe automobile Renault, il s'appelait à l'époque Louis Schweitzer, il présente à la presse la nouvelle berline, elle s'appelle Velsatis. Elle est équipée d'un système de navigation GPS développé par la firme, mais il se perd en forêt de Rambouillet non loin de Paris pendant sa démonstration d'essai. Je trouve ça assez formidable, c'était en 2002. Et enfin, en 2008, la chanson Across the Universe des Beatles est diffusée dans l'espace par la NASA américaine. C'était le 4 février 2008. Naissance. Le 4 février 1875 de Ludwig Prandtl, c'est un ingénieur et un physicien allemand. Il a apporté d'importantes contributions à la mécanique des fluides et à la théorie de la résistance des solides. Bon, son nom n'est pas resté à la postérité, mais il est né un 4 février, alors autant profiter de cette éphéméride pour honorer sa mémoire. Et le décès, le 4 février 1615. Alors là, on est au XVIIe siècle, de Giambattista Dell'Anpa. C'est un écrivain italien, polymathe, fasciné par le merveilleux, le miraculeux, les mystères naturels. Il tenta sa vie entière de séparer la magie divinatoire de la magie naturelle et de faire de la magie naturelle une discipline savante, solidement soutenue par la littérature classique et l'observation. Il écrivit en latin plus d'une douzaine de livres sur le sujet, dans une tentative sans cesse recommencée de naturaliser le miraculeux. Une entreprise qui était très risquée, bien sûr, parce que ça avait un impact aussi sur le domaine réservé de l'Église. L'Église qui revendiquait avoir le monopole des forces occultes. Et les travaux, donc, de Giambattista della Poltana lui valurent quelques ennuis avec l'Inquisition. Bien évidemment, nous sommes au XVIIe siècle. Voilà pour l'éphéméride de ce 4 février. Alors, pas mal d'informations scientifiques, notamment cet article que j'ai découvert sur le site de Futura Science, qui est un site génial parce qu'il y a plein d'informations scientifiques. Si vous aimez la science, et même si vous ne comprenez pas nécessairement tous les sujets scientifiques, le site Futura Science vous permet d'avoir l'accès à de l'information scientifique de façon vulgarisée, donc totalement compréhensible, et c'est vraiment intéressant. Et cet article, dont le titre m'interpellait un peu, des scientifiques ont découvert découvert des gènes impliqués dans notre sixième sens. Alors, on connaît le goût, le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, qui sont les cinq sens qui nous permettent de percevoir le monde qui nous entoure. Mais il en existe un sixième qui recèle encore bien des mystères. C'est ce qu'on appelle la proprioception. Elle agit à tout instant sans que nous en ayons conscience. En fait, la proprioception permet au cerveau de coordonner nos mouvements ou notre posture, ou encore de nous repérer dans l'espace. Ce sont des neurones, qu'on appelle donc des neurones propriocepteurs, qui sont connectés aux muscles et aux tendons, qui enregistrent leurs mouvements et leurs tensions et qui transmettent l'information au cerveau. Mais il y a peu de choses qui sont connues pour l'instant sur leur fonctionnement. Et donc, il y a deux scientifiques du centre Max Delbruck à Berlin qui ont identifié des marqueurs génétiques uniques aux neurones propriocepteurs qui vont donc contrôler les muscles du dos, la région abdominale et les membres postérieurs. C'est une avancée majeure donc dans notre compréhension de ce fameux sixième sens. Et donc, en étudiant d'un point de vue génétique chaque neurone propriocepteur sur des souris, eh bien, les scientifiques ont pu dresser une espèce de carte d'identité et de pouvoir les classer en sous-groupes. Et donc, on a pu réussir à avoir des informations un peu plus précises sur ces gènes. Stéphane Dietrich, qui est le responsable de cette étude qui est parue dans la revue Nature Communication, explique : nous avons aussi montré que ces gènes sont déjà actifs à un stade embryonnaire et le reste un certain temps après la naissance. En d'autres termes, le destin des neurones propriocepteurs est fixé à l'avance par la génétique qui décide si ils vont avoir un impact sur les jambes, sur les muscles du dos, avant même que la connexion soit faite. Ça, c'est de l'embryologie, c'est une science totalement fascinante également. Outre les nouvelles connaissances scientifiques qu'apportent ces recherches, eh bien, Stéphane Dietrich et ses collègues espèrent que cela pourra améliorer la conception des neuroprothèses qui remplacent les fonctions motrices et sensorielles d'un membre chez les personnes qui ont une blessure dans la moelle épinière. Donc on voit très bien les avancées qu'il peut y avoir. La recherche sur d'autres problèmes de santé liés à une mauvaise proprioception pourrait bénéficier de ces résultats. Par exemple, la scoliose est suspectée d'être liée à une proprioception défaillante qui altère la tension dans les muscles du dos, qui conduit donc à la déformation de la colonne vertébrale. Donc voilà, ces scientifiques ont découvert des gènes impliqués dans ce fameux sixième sens, un sixième sens qui existe bien, et donc on en sait un petit peu plus, même si c'est encore pour l'instant un domaine assez obscur. Biotine, tous les samedis, c'est de la science et c'est également de la musique.
Nighttime comes, and I see you standing there in the corner of my room. Bowed down and aloof. Poisoning my every breath. Pushing down on my chest. My imminent shadow. Thank you. I'll ignore the flowers, the sun and the moon. Ignore the mountains when you're here. Sleep until the month of June. Hide away when you'll appear. Tiptoeing around an empty stage. Draw the curtains to perform again.
Imminent Shadow, c'était Spencer Cullum sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. On parle un petit peu de tout et on va parler un petit peu de fertilité masculine et de contraception. La contraception qui repose essentiellement sur les femmes, à part les préservatifs bien sûr, et étant les premières concernées en cas de grossesse non désirée, elles ont facilement accepté l'idée de la pilule contraceptive dans les années 1960. Et les hommes dans tout ça, eh bien, il n'y a aucun projet de pilule contraceptive masculine qui n'a pu aboutir en 60 ans. Alors, il y a eu des molécules candidates, mais il n'y a pas eu de financement qui permettait de passer à l'étape des essais cliniques chez l'homme. Et sur ce sujet, les laboratoires pharmaceutiques sont frileux parce qu'on se demande si les hommes accepteront d'être infécond. Pourtant, les mentalités changent et beaucoup d'hommes souhaitent désormais être des acteurs de la contraception du couple. Et partant de ce postulat, il y a une société américaine qui a mis au point un implant contraceptif masculin. Dans le détail, il y a 4 hommes qui ont pu être inclus dans la première étude clinique menée par la société américaine. Et tout cela s'est passé en Australie. Donc on est vraiment sur un domaine international. Les travaux de recherche sont supervisés par un urologue. Une autre originalité de l'implant, c'est son mode de pose qui ne nécessite pas de scalpel. Ouf, on se sent un petit peu plus rassuré, bien sûr. Et un brevet est en cours sur le dispositif d'administration non invasif. C'est donc le concept de l'implant Adam qui est constitué d'un hydrogel et qui est positionné de telle sorte qu'il obstrue en fait le flux de sperme à travers les canaux déférents. Alors, pour mémoire, pour ceux qui ont oublié toute l'anatomie de l'appareil génital, eh bien le canal déférent, c'est le canal qui permet le transport des spermatozoïdes des testicules vers la prostate. Et avec l'implant, l'homme peut toujours éjaculer, mais son sperme est dépourvu de spermatozoïdes, il est donc non fécond. Par ailleurs, l'implant est biodégradable au bout d'un temps défini, c'est ce qui permet la réversibilité de ce mode de contraception. À la fin de la période de temps d'efficacité de l'implant, eh bien, l'homme peut choisir de s'en faire poser un autre ou bien de retrouver sa fécondité. Alors en ce sens, c'est une alternative très intéressante par rapport à la vasectomie qui consiste à couper les canaux déférents. Et bien là, on est bien dans une opération définitive dans le cadre de la vasectomie. C'est un mode de contraception permanent. Et donc là, on est plutôt sur quelque chose de transitoire. L'objectif de l'étude est double. D'une part, il s'agit de vérifier l'innocuité de l'implant, c'est-à-dire l'absence d'effets indésirables. Et d'autre part, le contenu du sperme des sujets va être suivi durant 3 ans, notamment pour bien vérifier l'absence de spermatozoïdes. Alors le fait que cette étude ait vu le jour est déjà une petite révolution dans le monde de la contraception. La prochaine étape sera une étude de plus grande ampleur, sans doute aux États-Unis. Mais voilà, on est de plus en plus sur des sujets qui concernent la contraception masculine. C'est assez récent. Il y a un autre article que j'ai vu je ne sais plus, dans un hebdomadaire d'information il y a quelques jours, dont le nom m'échappe, mais voilà, qui parlait de ces dispositifs de contraception masculine qui se démocratisent de plus en plus, bien évidemment. Autre chose, toujours au niveau médecine, on va parler de la lèpre, cette fois, qui est une maladie infectieuse, qui semble venir d'un autre temps, et pourtant elle est encore un problème de santé publique majeur en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud aujourd'hui. Ces trois régions concentrent la plupart des 200 000 cas recensés chaque année. Si la lèpre a pratiquement disparu de la métropole, elle est encore présente donc dans plusieurs territoire d'outre-mer. C'est une bactérie qui est responsable de la lèpre. Elle s'appelle Mycobacterium leprae. Elle provoque des dommages impressionnants au niveau de la peau, des muqueuses et des nerfs. Ça peut défigurer les malades, ça peut laisser des cicatrices à vie. Mais cette bactérie a aussi la propriété étonnante de favoriser la croissance du foie. Et ça, c'est une étude récente qui a été menée à l'université d'Édimbourg. Et donc, c'est une information nouvelle et intéressante. Les scientifiques ont infecté 45 tatous, qui est le réservoir naturel de Mycobacterium leprae. Et ces scientifiques ont analysé la taille de leur foie et de façon surprenante, la taille de l'organe était plus importante chez les animaux infectés que chez les animaux qui n'étaient pas infectés par cette bactérie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils gardaient une structure anatomique normale avec les vaisseaux sanguins et les canaux qui relient le foie à la vésicule biliaire au bon endroit. Donc le foie est plus gros, mais ça ne veut pas dire qu'il est déformé, entre guillemets. Si nous pouvons identifier comment la bactérie fait grandir le foie qui reste fonctionnel et sans causer d'effets secondaires chez les animaux vivants, nous pourrions être capables de transposer cette connaissance afin de développer des thérapies plus sûres pour rajeunir des foie vieillissant et régénérer des tissus endommagés. C'est ce qu'explique Anoura Rambukana, qui est biologiste cellulaire à l'université d'Édimbourg. Donc cette bactérie Mycobacterium leprae, c'est une bactérie qui est à l'intérieur des cellules, qui échappe ainsi aux anticorps. Quand c'est à l'intérieur de la cellule, les anticorps ne peuvent pas agir. Et dans la cellule, elle détourne une partie de son métabolisme pour ses propres besoins. Les scientifiques supposent que dans le cas des hépatocytes, la bactérie pourrait les mettre dans un état métabolique comparable à celui des cellules souches qui permettent au foie de grandir. Donc c'est une piste de recherche totalement inattendue que les scientifiques ne manqueront pas, bien sûr, de creuser. Parce que, voilà, on a découvert que cette bactérie qui est responsable de la lèpre répare aussi les tissus, notamment les tissus du foie. Donc voilà, il y a un mal d'un côté, il y a un bien de l'autre, et des études vont être menées, approfondies, pour justement essayer d'avoir peut-être des solutions thérapeutiques intéressantes, bien évidemment. Mais voilà, on est toujours sur ce genre d'informations, on ne sait pas comment le prendre. Cette bactérie totalement néfaste peut être aussi notre ami également. Donc à suivre, on suivra bien sûr l'information et voir un petit peu comment vont évoluer les travaux de recherche dans ce domaine. Django sur l'antenne de Graphite. Merci, mais merci de ces applaudissements. Got Me Worried de Django Django sur la Taine de Graphite. Vous écoutez tous les samedis. Butine, l'émission d'actualité scientifique sur graphite.net pour Internet et avec le 94.9 pour la bande FM. On va toujours parler un petit peu de santé dans cette émission, parce qu'il y a pas mal d'articles qui nous donnent un petit peu des précisions, ou non d'ailleurs, sur certaines interrogations que l'on peut avoir, notamment les ondes électromagnétiques. Il y a beaucoup de nos équipements modernes qui utilisent ces ondes électromagnétiques, les téléphones, la télévision, la radio. Ces ondes servent de support à leur transmission de données. Elles sont caractérisées par leur fréquence qui s'exprime en hertz. Et la fréquence, c'est un chiffre qui traduit le nombre d'oscillations par seconde. On ne les voit pas, on ne les entend pas, on ne les sent pas et elles sont pourtant bien présentes. Et la question, c'est quels sont leurs effets sur notre santé. L'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, vient de publier sur le sujet un dossier en 8 questions. Alors, on sait que les ondes de basse fréquence, donc de 0 à 10 Hz, peuvent stimuler les tissus nerveux et la rétine en cas de forte densité. Les ondes de fréquence entre 10 et 300 kHz sont capables d'échauffer les tissus biologiques et de provoquer un effet thermique en cas de niveau élevé d'exposition. En France, les valeurs limites actuellement en vigueur sont là pour garantir que les individus ne peuvent pas être exposés à de tels niveaux d'ondes, ni dans l'espace public, ni en ayant une utilisation normale des appareils émetteurs. Cependant, des effets biologiques ont été observés à des niveaux assez faibles d'exposition. Par exemple, l'utilisation d'un téléphone portable est associée à une modification de l'activité électrique dans le cerveau. Pour autant, cet effet biologique n'a pas nécessairement un impact sur notre santé. Néanmoins, il est à noter que les études sont difficiles à mener dans ce domaine. En effet, nous sommes exposés à de multiples manières, tant les appareils émetteurs sont nombreux autour de nous et la question de l'effet des multi-expositions est complexe à étudier et une approche pluridisciplinaire est indispensable. Alors, l'état actuel des connaissances montre qu'aucun lien n'a pu être mis en évidence entre exposition aux ondes des téléphones portables et impact négatif sur la santé des individus. Néanmoins, il y a certaines études qui suggèrent une possible augmentation du risque de cancer du cerveau lors d'une utilisation très intensive des téléphones portables. Les radiofréquences sont d'ailleurs classées comme cancérogènes possibles par le Centre international de recherche sur le cancer. Par mesure de précaution, il vaut toujours mieux limiter son exposition aux ondes électromagnétiques. Pour cela, il existe quelques astuces simples à mettre en œuvre. Par exemple, l'utilisation d'un kit main libre lors des conversations téléphoniques qui permet de diminuer l'impact sur le cerveau de ces ondes émises par le téléphone portable. Il est également recommandé de limiter l'utilisation des téléphones portables chez les enfants. Leur cerveau en formation pourrait être plus sensible aux ondes électromagnétiques. Voilà, nous dit l'ANSES. Pour avoir un peu plus de précision, je vous conseille de lire donc ce dossier sur le site anses.fr. Toujours d'un point de vue médical, on va parler du cancer colorectal, le cancer du gros intestin, qui représente la 4e cause de décès par cancer dans le monde. Il y a de nombreuses études qui montrent que l'alimentation est d'importants facteurs de risque modifiables des cancers. En particulier, un régime alimentaire riche en fibres est associé à une diminution du risque de cancer colorectal, tandis que les viandes rouges ou les viandes transformées sont associées à un risque accru de développer ce type de cancer. Toutefois, l'impact de la qualité nutritionnelle des aliments végétaux sur cette association bénéfique n'est pas clair. Il y a donc des chercheurs d'université de Corée du Sud qui ont évalué cet impact en se basant sur 3 indices préalablement défini, l'indice global de régime à base de végétaux, l'indice de régime sain à base de végétaux et l'indice de régime malsain à base de végétaux. Et donc les aliments végétaux sains, ça comprend les céréales complètes, les fruits, les légumes, les huiles végétales, les noix, les légumineuses. Et les éléments végétaux moins sains, eh bien, c'est les céréales raffinées, les jus de fruits, les pommes de terre et les sucres ajoutés. Et donc, il y a une étude qui a été menée sur à peu près 80 000 hommes et 90 000 femmes. Et on a analysé les consommations alimentaires. Et on a utilisé les données obtenues à partir des registres du cancer. Et les auteurs de cette étude, qui est publiée dans la revue BMC Medicine, ont calculé l'incidence des nouveaux cas de cancer colorectal jusqu'en 2017. Au total, on a à peu près 3% des participants qui ont développé un cancer colorectal pendant cette période d'étude. Et les chercheurs rapportent que les hommes qui mangeaient les quantités quotidiennes moyennes les plus élevées d'aliments végétaux sains présentaient un risque de cancer colorectal inférieur de 27% par rapport à ceux qui mangeaient les quantités les plus faibles de ces aliments. En revanche, une telle association n'a pas été trouvée chez les femmes. Comme les hommes ont tendance à avoir un risque plus élevé de cancer colorectal que les femmes, nous proposons que cela puisse aider à expliquer pourquoi manger de plus grandes quantités d'aliments végétaux sains était associé à une réduction du risque de cancer colorectal uniquement chez les hommes. C'est ce qu'explique Ji Kim, qui est l'auteur de cette étude. Alors, dès lors, comment expliquer la relation entre alimentation et cancer colorectal ? Les chercheurs supposent en fait que les antioxydants qui sont présents dans des aliments comme les fruits, les légumes, les céréales complètes, eh bien ces antioxydants pourraient contribuer à supprimer l'inflammation chronique, laquelle peut conduire au cancer. Par ailleurs, il semble que l'origine ethnique des participants présente une influence sur les résultats trouvés. Chez les hommes blancs américains, ceux qui consommaient la plus grande quantité d'aliments végétaux sains avaient un risque de cancer colorectal inférieur de 24% par rapport à ceux qui en mangeaient moins. Et chez les hommes américains d'origine japonaise, ce même risque était inférieur de 20%. Les auteurs n'ont pas identifié d'association significative entre les régimes à base de végétaux sains et le risque de cancer colorectal chez les hommes afro-américains, latino ou natifs d'Hawaï. Une prochaine étude qui va être menée, notamment sur les facteurs génétiques et environnementaux, qui vont peut-être apporter des précisions sur ces différences. En tout cas, il convient de noter que la nature de cette étude ne permet pas de conclure à une relation de cause à effet entre consommation d'aliments d'origine végétale et risque de cancer colorectal. Il faut toujours quand même prendre beaucoup de pincettes avec ce genre d'informations. Mais bon, en tout cas, peu importe les aliments consommés, les pouvoirs publics encouragent les personnes de plus de 50 ans à un dépistage systématique du cancer colorectal. Mais voilà, une alimentation végétale protégerait les hommes de cette maladie, nous dit cet article et donc de cette recherche qui nous vient de Corée du Sud. Donc voilà, on a pas mal d'informations d'un point de vue médecine dans cette émission, mais c'est parce que voilà, ça nous concerne aussi et ça nous permet d'avoir une idée des futurs de futures pistes de recherche qui seront investiguées par la suite. Allez, encore un peu de musique dans cette émission, bien évidemment.
Ça doit dépendre de quoi l'on parle. Ça doit dépendre de qui est en face. Ça doit dépendre si c'est une princesse ou le pire des salopards qui nous agresse. Ça nous dépend, ça doit dépendre de tes principes, de l'importance que tu attaches à ce qui balle dans ton slip si t'es déjà mort. Ça peut dépendre des petits cabots qui se déplacent pour venir parler à ta place. Ça doit dépendre de quoi l'on parle. Ça doit dépendre de qui est en face. Ça doit dépendre si c'est une princesse ou le pire des salopards qui nous agresse. Ça nous dépend, ça doit dépendre du contour de mes fesses, à moins que ta connerie ne s'arrête sur la couleur de mon faciès. Ça doit dépendre si tu t'informes, si tu déformes à la télé, si t'es le plus laid de la fournée. Ça doit dépendre de tant de choses auxquelles on ne voudrait pas pourtant que ça dépende. Évidemment, ça doit dépendre des circonstances, pour peu qu'au bout de l'entretien y ait du travail pour le lendemain. Ça doit dépendre de quoi l'on parle. Ça doit dépendre de qui est en face. Ça doit dépendre si c'est une princesse ou le pire des salopards qui nous agresse. Ça nous dépend. Ça doit dépendre si c'est une princesse ou le pire des salopards qui nous agresse. Ça nous dépend, ça doit dépendre de quoi l'on parle. Ça doit dépendre de qui est en face. Ça doit dépendre si c'est une princesse ou le pire des salopards qui nous agresse. Ça nous dépend, ça doit dépendre de quoi t'as l'air. Si ton habit ne fait pas le moine, si ton gourou fait tes affaires, ça doit dépendre si tu préfères croire que ce sera mieux au ciel plutôt que t'éclater sur la terre. Ça doit dépendre de quoi l'on parle. Ça doit dépendre de qui est en face. Ça doit dépendre si c'est une princesse ou le pire des salopards qui nous agresse. Ça nous dépend, ça doit dépendre. De quoi l'on parle, ça doit dépendre de qui est en face. Ça doit dépendre si c'est une princesse ou le pire des salopards qui nous agresse. Ça nous dépend, ça doit dépendre. De quoi l'on parle, ça doit dépendre de qui est en face. Ça doit dépendre si c'est une princesse ou le pire des salopards qui nous agresse. Ça nous dépend,
ça doit dépendre.
Ça doit dépendre, Laurent Montagne, sur l'antenne de Graphite. Toujours un peu d'informations médicales dans cette émission Biotine aujourd'hui. Les futurs médicaments contre le cancer, qui reste bien sûr l'une des principales causes de décès dans le monde, eh bien ces futurs médicaments pourraient être formulés à partir de composés présents dans des plantes de la famille des solanacées. Ce sont les pommes de terre, les tomates et les aubergines. Ces composés naturels qu'on appelle les glycoalcaloïdes sont produits par des plantes déjà utilisées en médecine traditionnelle pour soigner de nombreux troubles. Et ces glycoalcaloïdes présentent des propriétés antitumorales significatives comme un fort effet inhibiteur sur la croissance des cellules cancéreuses. Il y a des scientifiques polonais qui ont passé en revue les dernières recherches menées ces 7 dernières années sur les propriétés anticancéreuse des glycoalcaloïdes. Et si cette famille de plantes, les solanacées, contient des toxiques à cause des alcaloïdes produits, eh bien une dose thérapeutique de ces composés devrait permettre d'obtenir de bons résultats anti-cancer. Les chercheurs se sont focalisés sur 5 5 glycoalcaloïdes précis. Et par exemple, la solanine qui est contenue dans des pommes de terre dont le niveau dépend de l'exposition à la lumière et de la température, eh bien la solanine empêche la formation de substances cancérigènes dans l'organisme et inhibe les métastases. Il y a également la tomatine qui est présente dans les tomates en sens redouté, qui favorise la régulation du cycle cellulaire par l'organisme afin de pouvoir tuer les cellules cancéreuses. Il y a la solamargine, c'est dans les aubergines, et cela empêche les cellules cancéreuses du foie de se reproduire, et ainsi de suite. En fait, on a pu identifier différents glycoalcaloïdes qui ont des effets plutôt bénéfiques. Alors, les chercheurs indiquent que ces composés pourraient être appliqués en combinaison avec d'autres médicaments ou des thérapies qu'on pourrait mettre en place, avec l'idée d'améliorer leur efficacité, bien évidemment. Alors, attention, toutefois, à leurs effets cytotoxiques qui sont révélés par certaines études. La sécurité des médicaments devra être bien étudiée avant de développer tout médicament à base de glycoalcaloïdes. Mais voilà, les tomates, les pommes de terre, les aubergines pourraient contenir les futures molécules anti-cancer. cancer. Ce sont donc des études qui ont été menées et qui permettent là encore d'avoir des débouchés assez intéressants sur l'avenir. Aucune transition, mais bon, quand j'ai vu cet article dans Futura, je me suis dit, je suis obligé de vous en parler. Alors ok, il est, je ne sais pas très quelle heure il peut être là, à peu près midi et demi passé, vous êtes peut-être à table, mais je tiens quand même à vous apporter la preuve scientifique que tirer la chasse d'eau, c'est un nid à virus et bactéries. Il existe certaines études dont on se passerait bien de connaître les résultats parfois. Un article publié dans la revue Scientific Reports montre les résultats des chercheurs de l'Université du Colorado qui se sont intéressés à ce qui se passe quand on tire la chasse d'eau dans les toilettes. Alors plus spécifiquement, les chercheurs ont voulu étudier la projection d'eau dans les toilettes publiques lorsque les WC sont équipés de lunettes mais pas de couvercle. Et pour ce faire, ils ont utilisé des lasers verts, des lasers de couleur verte, afin d'éliminer les gouttelettes d'eau qui se dispersent dans l'air et qui sont trop petites pour être vues à l'œil nu. Un des lasers a éclairé en continu les WC et l'espace au-dessus, et la seconde a fonctionné par pulsation afin de pouvoir mesurer la vitesse et la direction des particules. Donc ils ont analysé un petit peu toutes ces petites gouttes d'eau qui viennent de la cuvette des toilettes. En fait, les chercheurs savent depuis 60 ans que des gouttes peuvent atteindre des surfaces voisines, mais l'étude, en fait, avec ce dispositif de laser avec une lumière verte, ça a permis de les rendre visibles. Et ces gouttelettes qui mesurent entre des dizaines de micromètres et jusqu'à 1 mm sont projetées à une vitesse de 2 mètres par seconde pour atteindre une hauteur d'1,50 m en 8 secondes. Donc c'est quand même assez impressionnant. Ce sont donc des aérosols quelque part, et les aérosols les plus petits peuvent rester suspendus en l'air plusieurs minutes. Alors, sachant que des études ont démontré que certains pathogènes peuvent persister dans la cuvette après que la chasse ait été tirée des dizaines de fois, eh bien ces résultats pourraient être importants pour l'étude de la propagation de certaines maladies. Selon les chercheurs, la visualisation des projections de particules permettra aussi d'améliorer la conception des toilettes pour limiter la dispersion des gouttelettes, dans l'idée justement d'améliorer les techniques de désinfection et puis aussi tout ce qui est ventilation en vue de réduire le risque de propagation des maladies contagieuses dans les WC publics. Eh oui, on n'y pense pas, mais voilà. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a tiré la chasse d'eau avant vous, eh bien, reste dans l'air pendant encore plusieurs minutes ces gouttelettes qui peuvent contenir des agents pathogènes. Voilà, bon appétit à vous. Allez, pour me faire pardonner, on écoute Gavroche sur l'antenne de Graphite.
Amnésie internationale. Amnésie internationale.
Je suis venu en France le jour de ma naissance, le ventre de ma mère, ma première résidence. À peine je poussais mon premier cri, on m'a dit hey,
toi t'es pas d'ici.
Elle avait pris soin de m'offrir un prénom qui ne rime ni avec Marc-Olivier ni Raymond, mais qui avait l'accent bien accroché à la Méditerranée. Mes parents étaient majeurs depuis longtemps, mais n'ont pas eu l'indépendance à 18 ans. À peine on a marre des expressions, racailles ou bien sauvageons. Nous avons bien compris, la différence n'a pas de prix. Pas besoin d'être Jérémy pour deviner le sort qui nous est promis. Qu'on soit premier, dernier de la classe, on n'aura jamais notre place. Je suis venu en France le jour de ma naissance, mon grand-père m'enseigna ma première résistance. Paix, amour et connaissance, telle était son unique défense. Paix, amour et connaissance, telle était son unique défense. Car amnésie internationale, amnésie internationale, amnésie internationale, amnésie internationale, amnésie internationale, amnésie internationale, amnésie internationale.
Amnésie internationale, c'était Gavroche sur l'antenne de Graphite. Allez, deux informations pour nous détendre un petit peu de cette émission un peu plombante avec ces sujets médicaux. Le premier, c'est cette consigne insolite qui a été diffusée auprès des visiteurs du parc national de Saguaro dans le désert de Sonora. Nous sommes au Nouveau-Mexique aux États-Unis. La consigne, c'est la suivante: arrêtez de lécher les crapauds. Eh bien, tout simplement parce que ces crapauds en question, ils sont de l'espèce Buffo alvarius. Ces crapauds sont connus pour sécréter une toxine sur leur peau. C'est un venin qui éloigne les prédateurs, mais dont la concentration en un puissant hallucinogène attire aussi les touristes amateurs de sensations fortes. Et donc, du coup, ils vont dans ce parc pour essayer d'attraper des crapauds et pour pouvoir les... Pardon. Je ne sais pas ce qui passe dans la tête des gens parfois. Non mais sérieusement, donc ils vont récupérer les crapauds dans le parc et ils vont les lécher. Pardon. Bon, c'est pas grave. Je veux pas m'en mettre. Parce que, voilà, enfin, bon, passons à autre chose. C'était dans Science et Avenir qu'on pouvait lire ça. Mais j'en sais rien. Mais je sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe quand même? Non, mais les gens sont fous. Non, mais il y a un moment où... Bon, allez, on va pas... On va parler de Dracula, parce que je vous en ai parlé la semaine dernière. Je vous ai dit qu'on parlerait de Dracula. Il y a une analyse qui a été annoncée dans The Guardian par des chercheurs, les chercheurs Gleb et Sveltana Zilberstein. L'analyse sur des supports tels que des lettres, c'est pas une première pour eux. Ils ont déjà travaillé sur les traces des liquides biologiques sur des écrits laissés par Bulgakov, Tchekhov ou George Orwell, afin de mieux comprendre leur environnement au cours de leur vie. Eh bien, ils vont travailler sur la sueur de Dracula, la sueur de Vlad l'Empaleur. Il est surnommé ainsi en lien avec ses activités supposées de torture et de barbarie, et il rejoint donc la liste de ceux que l'on va essayer d'analyser. La lettre signée par Vlad Tepes et qui sera au centre de l'étude a été datée et signée du 4 août 1475. Elle annonce aux habitants de la ville roumaine de Sibiu que l'aristocrate sera de passage dans leur ville. Cette lettre a été écrite et signée à la fin de vie de l'Empaleur, puisque ce dernier est décédé en décembre 1476. De quoi espérer quelques informations sur sa santé par le biais des analyses à venir. Il faut dire que sa mort a été mouvementée puisque Vlad l'Empaleur a été assassiné et l'emplacement de son corps est toujours incertain. Il y a une histoire idéale pour un récit de vampire, bien évidemment. Alors, la complexité du cas de Vlad Tepes réside dans son absence de corps. Si le récit de son assassinat et les détails de cet assassinat se révèlent vrais, sa tête devrait en toute logique être manquante, puisqu'il aurait été décapité sur ordre d'un sultan. Il y a deux tombes qui pourraient abriter ses restes au monastère de Snagov, et ces deux tombes ont été découvertes dans les années 30. Seuls d'anciens ossements d'animaux ont été trouvé dans l'une et un corps avec quelques objets de qualité dans l'autre. Malheureusement, le contenu de ces sépultures qui a été emmené au musée d'histoire et d'archéologie de Bucarest a été perdu au fil du temps. De plus, le doute subsiste sur la possibilité d'avoir inhumé l'empaleur dans un lieu orthodoxe alors qu'il avait renié cette religion pour devenir catholique. En 2014, il y a des chercheurs qui pensaient avoir trouvé Dracula quelque part dans un tombeau à Naples en Italie. Autant d'éléments qui ne permettent pas d'étudier directement un squelette et où l'analyse des deux chercheurs peut s'avérer intéressante. Ces questions continuent à auréoler de mystère l'histoire de ce personnage historique vu comme effrayant et dont l'absence de corps contribue aussi à alimenter les histoires liées aux vampires. Par conséquent, les gouttelettes laissées par Vlad, tant de sa sueur que de ses éventuels postillons, vont être analysés par donc les deux scientifiques afin de dresser un portrait de Dracula. Le portrait biomoléculaire pourra éventuellement permettre de comprendre les maladies, les soins ou encore le style de vie de l'homme à la fin de ses jours. De quoi étoffer les maigres connaissances que nous avons concernant ce personnage historique emblématique si ces études s'avèrent concluantes, et pourquoi pas envisager d'imaginer son portrait également. Donc ça serait quand même assez fascinant, assez intéressant d'avoir des informations sur ce Dracula, ce fameux Vlad Tepes, qui est donc connu sous le nom de Vlad III l'Empaleur ou encore Dracula. On en saura peut-être un petit peu plus, on essaiera de suivre bien sûr cette information. Donc voilà, on va analyser la sueur de Dracula et on va arrêter de lécher des crapauds, s'il vous plaît. Soyons sérieux, un peu de dignité.
Dancing. Oh. Busting out of my skins. Our hearts exploding.
We Call This Dancing, c'était The Partolones sur l'antenne de Graphite. Dernière information, on sera resté sur du médical, mais cette fois peut-être un petit peu plus optimiste et prometteur concernant les infections urinaires, les cystites, qui est une infection localisée au niveau de la vessie. Alors, c'est pas nécessairement grave, mais en tout cas, c'est extrêmement gênant. Ces cystites se traduisent par des douleurs ou des brûlures au moment d'uriner, des douleurs dans le bas du ventre, des envies très pressantes et très fréquentes d'uriner. Et les infections urinaires sont beaucoup plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. Cela est dû à l'anatomie féminine, car l'urètre est beaucoup plus court. Certaines femmes y sont particulièrement sujettes et peuvent en avoir plusieurs fois par an. On parle alors de cystite récidivante ou de cystite à répétition, et ces femmes doivent prendre des antibiotiques plusieurs fois par an, c'est-à-dire chaque fois qu'un nouvel épisode d'infection urinaire se produit. Des chercheurs ont mis au point un vaccin permettant de protéger contre la bactérie responsable de 80% des infections urinaires. Les résultats de leurs travaux ont été publiés dans la revue Science Advances. Ce vaccin, il n'est pas habituel parce qu'il se présente sous la forme d'un comprimé sublingual, c'est-à-dire qu'on le met c'est un comprimé qu'on laisse fondre sous la langue. C'est un mode d'administration qui permet une réponse particulièrement rapide. L'objectif du vaccin, c'est de susciter la synthèse d'anticorps qui seront contre cette bactérie responsable de ces infections urinaires pour que l'organisme puisse se défendre seul lorsqu'il rencontrera l'agent pathogène. Ces anticorps seront présents dans la circulation générale et dans au niveau de l'appareil urogénital. Ce vaccin a été testé dans un modèle de souris. Il a démontré la même efficacité que les antibiotiques habituels pour combattre l'infection. Il a également prouvé un atout de taille, c'est que le vaccin ne perturbe pas le microbiote intestinal, contrairement aux antibiotiques. Alors actuellement, il y a de plus en plus de bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques disponibles. Bien que la recherche sur de nouvelles classes d'antibiotiques avance, il est possible que l'on se retrouve à court de traitements efficaces contre les bactéries devenues résistantes. Et pour éviter cela, il faut utiliser les antibiotiques le moins souvent possible, bien évidemment. Moins les bactéries seront exposées aux antibiotiques, moins elles auront de chances de devenir résistantes. Et donc, dans ce contexte, les résultats de cette étude sont particulièrement intéressants, bien sûr, de ce vaccin qui pourrait bientôt soigner les infections urinaires. Alors, pour l'instant, voilà, des études ont été menées sur des souris, bien évidemment. Les résultats sont prometteurs. On est encore loin, bien sûr, à une commercialisation de ce vaccin à grande échelle. Mais en tout cas, on est quand même sur une piste sérieuse et intéressante, bien évidemment. Voilà, c'était la dernière information que l'on a évoquée dans cette émission de Biotine aujourd'hui. Merci de votre attention et de votre fidélité. Dans un instant, la suite de vos programmes sur l'antenne de Graphite. On se retrouve samedi prochain à 12h pour une nouvelle émission et pour continuer à feuilleter l'information scientifique, technique et médicale. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. À bientôt. Au revoir.